vous donne la parole.
D'accord. Pour compléter, j'ai pas fait juste un dernier ouvrage qui est un colloque que j'avais organisé avec Daniel Stéphane sur la question des publics médiatiques et publics politiques qui s'appelait l'essence du public. Question que je n'aurais malheureusement pas le temps d'aborder ici, bien qu'elle soit fort intéressante, puisque les modèles d'engagement du côté des publics politiques posent des questions différentes que du côté des publics médiatiques. Mais je n'ai pas choisi de traiter de ça aujourd'hui. Je vais essayer de traiter deux choses principalement. La première est plutôt liée à la partie de mes travaux qui a concerné la sociologie de la réception de la télévision, et notamment de cet ouvrage sur la réception par les jeunes téléspectateurs des séries pour adolescents diffusées à la télévision française, pour montrer que cette recherche m'a conduite à passer d'une optique de travail sur la réception à une optique de travail sur le public, qui est assez différente à mon sens, et j'essaierai de montrer pourquoi je fais une différence, et maintenant c'est vrai que mes recherches actuelles s'intéressent beaucoup plus à la question du public qu'à la question de la réception, qui, à l'époque où elle a été travaillée en sociologie des médias, notamment autour de David Landais et d'un certain nombre d'anglo-saxons, a été très longtemps travaillée sur un modèle texte-lecteur qui me semble très insuffisant pour comprendre les enjeux sociaux de la réception des médias. Dans un deuxième point, je vais évoquer une recherche, alors là, qui n'est pas du tout filmée, qui est en cours, et ça sera peut-être un peu une groupe de décoffrage, je m'en excuse d'avance, qui est une recherche sur les activités de sociabilité autour des sorties au théâtre, qui a pour principe de reprendre tous les protocoles que j'avais utilisés pour travailler sur la réception de la télévision, en me posant les mêmes questions. Avec qui on parle du théâtre, avec qui on y va, qu'est-ce que ça fait d'être ensemble à regarder un spectacle, quelles sont les émotions partagées, comment se fait ce partage des émotions, etc. Donc c'est l'idée de faire un peu sauter, c'est les ponts qui sont, de faire sauter la coupure qui est très forte en France, beaucoup plus que dans le monde anglo-saxon, entre les sociologues qui travaillent sur la culture cultivée, entre guillemets, et ceux qui travaillent sur les cultures médiatiques, où finalement ce n'est pas les mêmes lieux de rencontre, ce n'est pas les mêmes colloques, ce n'est pas les mêmes publications. Et il me semble qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées du côté de la sociologie des médias, peuvent être utiles aujourd'hui pour repenser des phénomènes qui touche plutôt à la culture cultivée. Bon, dans ce cas précis, c'est le théâtre, mais ça aurait pu être d'autres choses, le livre, la sortie au musée, etc. Donc sur le premier point, passer d'une sociologie de la réception à une sociologie des publics. Pourquoi ? C'est évident que quand j'ai fait cette enquête sur la réception des séries pour adolescents, j'ai travaillé avec trois matériaux différents. Des observations en famille sur le modèle prôné par les premières recherches en réception anglaise, d'Annie Landais ou autre, et je me suis aperçue que c'était totalement artefactuel comme démarche, et que rentrer dans une famille pour regarder avec eux ce qu'ils regardent d'habitude dans leur quotidien entraîne une sorte de positionnement de l'objet qu'on étudie comme objet de recherche et non plus comme objet de consommation télévisuelle. Et j'ai donc mener cette partie en observation en ayant finalement acquis une seule chose qui était à quel point la télévision est prise dans les routines intimes de la vie familiale, et ce qui n'était pas un apport négligeable à la compréhension de ce que j'étudiais. J'ai ensuite travaillé avec un questionnaire que j'ai passé auprès de collégiens et lycéens, qui est de 700 collégiens et lycéens, qui étaient sur l'ensemble des séries pour ados qui regardaient la télévision, en leur demandant dans des questions ouvertes de parler de leur personnage préféré, de leur personnage le moins aimé. Ces questionnaires étaient passés en classe grâce à des enseignants qui avaient accepté de se prêter à l'exercice, et ils m'ont donné quelque chose de très intéressant qui m'a mis sur la piste de la sociologie des publics d'ailleurs, qui était le fait que bon, bah, quand on a un enseignant qui incarne plutôt les valeurs de l'institution scolaire, et puis en face une classe à qui on demande de parler des séries qu'ils regardent à la télévision, qui sont des séries dont ils savent très bien que l'enseignant les méprise ou ne les considère pas comme importantes, il s'installe un climat très particulier, et les réponses qui sont faites au questionnaire sont des réponses qui sont liées à la fois à la présence de l'enseignant, donc quelque chose qui est face au monde adulte, et puis aussi au phénomène de groupe. Donc j'ai jamais pris ces résultats de questionnaire comme quelque chose qui serait une vérité des pratiques, une vérité des déclarations. Je les ai pris comme une construction sociale de ce qu'on pouvait déclarer, regarder la télévision quand on est un garçon. garçon de 11 ans, de 15 ans, de 18 ans, qu'est-ce qu'on pouvait dire, aimer comme personnage quand on est une fille de 20 ans, de tels milieux sociaux. Donc j'ai ce questionnaire qui, les données d'audience de médiamétrie me le montraient parfaitement, ne correspondait pas à la réalité des pratiques spectatorielles. Ce questionnaire est très intéressant d'un point de vue sociologique parce qu'il donnait une autre cartographie qui est une cartographie de la présentation de soi sur la scène sociale comme téléspectateur. Et là, on passe assez vite, à partir de là, sur un questionnement qui va plus s'interroger sur la constitution des publics comme un phénomène de construction de communautés à des moments donnés, dans des contextes précis d'interaction, donc avec une approche en microsociologie sur laquelle je vais revenir. Et puis le troisième matériau, ça a été ces courriers de fans, dont je connaissais l'existence, mais que j'ai mis longtemps à obtenir, donc des courriers qui ressemblent un peu à ceux qu'a récolté Isabelle Charpentier, à ceci près qu'il s'agissait de filles, ça je crois que c'est l'intéressement inscriminé, mais de très petites filles entre 8 et 14 ans qui écrivaient aux comédiens de la série, d'abord pour les féliciter de leur série, mais aussi pour parler d'elles. Et donc c'est un courrier sur l'expérience d'un programme de télévision mis en relation avec un certain nombre de thématiques sur la famille, l'amour, le couple, la fidélité, Hélène et les garçons étant une série de sorties mentales très variables qui traitait essentiellement du relationnel. Donc on voyait ce matériau, ces courriers de femmes, il y avait jusqu'à 1000 lettres par jour, c'est dire à quel point la télévision est un objet central dans la culture adolescente, je crois. 1000 lettres par jour, et donc des lettres, j'ai travaillé sur des lettres qui me semblaient les plus intéressantes sur la description à la fois de la relation à l'amour, à l'amitié, donc l'initiation à la première amoureuse à travers une série qui propose des scénarios, mais surtout à travers ce que me disaient ces courriers de la manière dont on est fan. Être fan, a priori, avant de faire cette enquête, pour moi, c'était juste quelqu'un qui ne peut pas rater un épisode de série. Or, ce n'est pas du tout ça, c'est une activité sociale de tous les instants. Ne pas rater un épisode, c'est très insuffisant. Ce qu'il faut, c'est entrer, montrer socialement qu'on fait partie d'un public bien précis, qui est le public des fans. Et donc, il y a cette activité sociale de fans qui est décrite dans les lettres et qui, là aussi, m'a poussé vers cette nouvelle problématique qui est au moins une problématique de décodage d'un programme de télévision, mais plus une problématique de construction sociale des positions de téléspectateurs, qui est pour moi le fondement d'un travail à travers les notions de constitution des publics. Ce qui va se passer, c'est que, du coup, j'en suis venue à la fin de ce livre, et surtout dans des articles ultérieurs, notamment un article dans un ouvrage d'hommage à Howard Baker, où j'ai repris les notions des mondes de l'art, convention, coopération, pour étudier le travail de fans. Et je me suis aperçue que j'aurais dû le faire avant, parce que ça marchait extraordinairement bien, c'est-à-dire que j'avais un matériau qui me permettait d'avoir une approche en micro-sociologie sur comment il y a une série de mini-communautés, la meilleure amie, la mère qui aide, il y a des opposants à la construction du monde, qui sont les garçons qui décadrent dans la cour de récréation parce que les petites filles sont prises dans une série sentimentale. Mais en tout cas, mon idée, c'était que à partir de ce moment, j'ai réfléchi la réception de la télévision comme à travers les interactions que développe un programme de télévision, que ce soit des interactions avant le moment de regarder le programme ou des interactions encore plus nombreuses après l'avoir vu. À la limite, je ne m'intéresse plus aujourd'hui au moment où je consomme le programme lui-même. Je trouve que sociologiquement, c'est beaucoup passionnant de voir cette aventure du sens dont on parlait ce matin, qui est une aventure qui passe par des scènes d'interaction dans des contextes bien précis. Alors là, on voit très bien qu'on réfléchit à la réception différemment. Quels sont les modes d'attention accordés à un programme ? On va réfléchir non pas en fonction du programme, mais en fonction des anticipations d'interaction que l'individu va développer au moment où il entre en contact avec le programme. Bien sûr, c'était assez facile sur une série extrêmement populaire comme était Hélène et les garçons, et sur des jeunes qui parlent beaucoup de la télévision. On sait en gros que c'est le premier sujet de conversation dans le cours d'école, c'est la télévision, c'est très bien. Donc c'est une sorte de support commun qui permet, tout le monde a vu la même chose en même temps la veille, ils n'étaient pas ensemble, mais ils l'ont vu chacun, donc c'est des interactions à distance et ils savent que le lendemain, il y aura un certain nombre d'échanges sur ce qui s'est passé dans l'épisode, sur les récits, les personnages, et que ces échanges, à partir du moment où ils se font autour de ce support commun, peut aussi du coup un support neutre à l'intérieur d'une communauté qui accepte d'entrer dans le jeu de la discussion officielle, publique. Ce support est neutre parce qu'il permet, notamment sur les thématiques de la grammaire amoureuse, de parler de soi à travers les récits ou les interactions qui concernent un personnage. Pourquoi la vie a trompé, machin, moi j'aurais pas fait comme elle à sa place, etc. Donc on voit que s'enclenche toute une expérience de vie et la recherche d'informations symétriques chez les interlocuteurs à partir du support commun et neutre qui est les récits qui sont faits dans une série de télévision. Donc, travailler, passer de la réception publique, c'est passer d'un modèle plutôt fondé sur le décodage de la relation à un programme précis, à une problématique centrée sur le travail de présentation de soi et le jeu de figuration statutaire sur la scène sociale, et sachant que les scènes sociales sont multiples. Pour moi, il n'y a pas une seule scène sociale, il y en a beaucoup. Il y a la scène familiale, avec les frères, les sœurs, les cousines, il y a des scènes dans le voisinage, il y a des scènes à l'école. Donc il y a une multiplicité de scènes, avec à la limite une dissociation possible, complète, d'être récepteur et d'être public. J'ai par exemple le cas des garçons, qui étaient assez nombreux quand ils étaient petits à regarder la série à l'aide des garçons, mais savaient très bien qu'il y avait un risque social assez fort à déclarer pour regarder cette série, puisque c'était une série sentimentale, donc elle agissait comme un pôle répulsif, puisque très connotée sentimentale et féminine. Donc ils se déclaraient non public alors qu'ils étaient récepteurs. On peut avoir l'inverse. La situation de quelqu'un qui se déclare public sans avoir été récepteur parce qu'elle aurait raté ou ne voudrait plus regarder cette série, mais que avouer publiquement son désintérêt pour ce programme lui ferait courir un risque de marginalisation par rapport à un groupe d'interaction où le programme joue un rôle important. Donc c'est un peu ça l'idée que je voulais préciser, c'est que il me semble qu'il y a vraiment un grand intérêt sociologique à travailler cette question des publics, un peu comme l'a proposé Daniel Dayan et Eddie Ducats dans leur livre Media Events, qui a été traduit en français sous le titre La télévision cérémoniale. Notamment, il y a un chapitre très intéressant sur l'idée que voir quelque chose à la télévision, c'est toujours voir avec. Alors, bien sûr, ça enclenche toutes ces communautés à distance. Hein. Dayan montre bien dans cet ouvrage avec Katz comment une expérience singulière hein, chez soi, à domicile, se transforme en engagement collectif en fait. Et il s'intéresse à ce qu'il appelle les dimensions performatives du public, c'est-à-dire qu'un public s'éprouve comme public par rapport à d'autres publics face auxquels il se manifeste et devant lesquels il se définit. Donc, dans cette perspective développée par Dayan et que j'ai utilisée à travers le matériau sur Hélène et les garçons, le public, finalement, il sert d'horizon à l'expérience du téléspectateur. C'est-à-dire, regarder la télévision, ça signifie entrer en interaction avec un contre-champ qui est constitué de tous ceux qui regardent simultanément la même image télévisuelle, ou plutôt exactement de tous ceux dont on imagine qu'ils le font. Et ça, je le voyais extrêmement bien dans les courriers de fans. Il n'y a pas un courrier qui n'évoque pas le fait qu'il y a d'autres femmes. Elles sont parfaitement conscientes qu'elles ne sont pas les seules à être femmes. L'institut des filles sait qu'il y a d'autres femmes. Et elle va se définir par rapport à cette communauté imaginée en expliquant en quoi elle est singulière, elle comme femme, par rapport aux femmes classiques. Donc il y a une sorte de référence commune qui va être la figure du fan déviant, le fan qui n'aurait pas compris que c'est une série et non pas la réalité, le fan qui collectionne des choses de façon accumulative sans comprendre que ces choses doivent lui servir dans l'approfondissement et sa propre réflexivité sur les modèles de féminité, etc. Donc j'ai dans les lettres énormément de matériaux sur cette figure de la position déviante face à la télévision qui est finalement une figure centrale par rapport à laquelle se situe à la fois cette petite femme qui envoie des courriers, mais aussi, curieusement, paradoxalement, des étudiants de Sciences Po que j'avais alors et qui avaient fait une campagne pour l'élection au bureau des élèves sur le thème « Hélène et les garçons, c'est génial ». Donc ils avaient 25 ans, la campagne était montée par un garçon de 25 ans, donc pas du tout le cœur de cible plus sentimental pour cette fille. Et cette campagne a eu un gros succès, j'ai récupéré tous leurs matériaux, c'est-à-dire des tracts affichés tous les matins, résumé de l'épisode de la veille, etc., comme passage du chez Rodriguez dans le haut de Sciences Po et machin. Et on voyait très bien que eux, c'était une lecture parodique organisée avec des rituels qui étaient des rituels différents évidemment des petites fans, mais ils avaient en commun le fait qu'ils avaient tous deux une perception d'une sorte de téléspectateur déviant, mais qui serait le téléspectateur fan d'Hélène et des garçons, et qui se situait, les petites femmes en disant « attention, je ne suis pas comme celle-là », et les étudiants de Sciences Po en disant « je suis comme ça », c'est-à-dire « je suis, j'adore, je ne peux pas m'en passer, je collectionne tout, etc. » Donc on voit que quand on travaille sur cette question de réception, on est assez vite quand même, on a qui conduit à s'intéresser à cette question d'organisation, de lieux d'action collective, qui sont, puisque le collectif c'est pas une entité, ce sont des actions, hein, ce sont des lieux d'action collective où on organise l'expérience partagée à un moment donné. Et cette organisation de l'expérience partagée, bien sûr, elle peut varier d'une scène sociale à l'autre. Elle ne sera pas la même ni à Sciences Po que dans les cours d'école de la France rurale où on fait les courriers de petites femmes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, alors. C'est un enjeu fort pour moi, c'est pour moi une grande faille dans la sociologie et la culture de Pierre Bourdieu, c'est cette question d'interaction. Je pense que c'est un programme de travail que j'ai depuis pas mal d'années, notamment depuis cette enquête, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les phénomènes culturels sans s'intéresser en même temps aux phénomènes de sociabilité. Et justement, c'est à travers les interactions que la culture se constitue dans ses modes d'appropriation pour les individus. Alors, si on s'intéresse aux interactions, quand on travaille sur les médias, on s'y intéresse automatiquement. C'est une évidence qui saute aux yeux, puisque les publics des médias sont bruyants, ils sont manifestes, ils s'habillent comme les stars, ils produisent énormément de littérature d'accompagnement, des fanzines, des objets. Donc, ce sont des sociabilités très, très manifestes. Donc on voit très bien, quand on travaille sur la télévision, qu'on ne peut pas passer à côté de la question de l'interaction. En revanche, et c'est là où je fais un essai, je ne sais pas ce que ça donnera, quand on travaille sur des pratiques dites nobles, comme la lecture de livres, la visite au musée, la fréquentation du théâtre, etc., est-ce que, a priori, les sociabilités sont beaucoup moins manifestes, elles sont beaucoup plus silencieuses, hein, c'est évident. Alors, bien sûr, il y a une première chose, et Bernard Maillet en a parlé ce matin, c'est que ces sociabilités silencieuses du théâtre, par exemple, n'ont pas été des sociabilités silencieuses depuis toujours. Hein. Il a évoqué le livre de Lévin, qui est absolument magnifique, effectivement. J'en évoquerai deux autres, celui de Maurice Descoques, sur le livre du théâtre, où, à la lecture de ce livre, on est absolument frappé par le nombre de points communs entre le rôle que jouait le théâtre au XVIIe siècle et le rôle que joue la télévision aujourd'hui, et notamment le fonctionnement, la prime aux comédiens par rapport aux auteurs, la starification hein, des comédiens à l'époque du théâtre au XVIIe ou XVIIIe siècle, alors que les auteurs étaient non seulement très pauvres, mais très peu reconnus. Il y a aussi le fait que les pièces n'étaient jouées que tant qu'elles faisaient le plein de public, et donc il y avait une sorte d'audimat du théâtre. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce livre qui sont très, très étonnantes, parce qu'on a l'impression d'ouvrir les yeux sur des ressemblances assez fortes entre des domaines culturels qui sont aujourd'hui totalement dissociés, hein, à la fois en termes de milieux sociaux de fréquentation, mais aussi d'analyse culturelle, etc. Et il y a un troisième livre qui est pour moi le livre le plus merveilleux sur le théâtre, qui est le livre de Geoffrey Ravel qui s'appelle The Contested Painter, et qui est un très très bel ouvrage sur, à partir des archives judiciaires, des archives de police, parce qu'il se passait beaucoup de choses dans le théâtre. Le parterre, c'est donc cette zone où on se tenait debout, qui faisait à peu près 100 mètres carrés, où on se tenait à 600 ou 700 personnes debout. On imagine bien. Bon, donc il va partir de ces archives sur le parterre, qui sont notamment tous les gens qui se font arrêter par la police, parce qu'ils sont, soit ils ont volé des bourses ou des montres au parterre, soit des gens du parterre qui se sont fait voler quelque chose. Et donc finalement, en travaillant sur ces archives de police, il va recréer ce qui se passait autour du parterre. Alors, je ne veux pas parler de ce livre, mais c'est aussi un très beau livre sur justement le parterre comme fondement de la culture politique révolutionnaire. Un ouvrage qui montre très très bien à la fois les interactions entre les comédiens et parterre, mais aussi le rôle politique qu'a joué parterre dans les choix des pièces qui étaient représentées, les interactions aussi dans la salle entre les loges et le parterre, hein, puisqu'il y avait l'aristocratie qui occupait les loges, il y avait aussi une aristocratie qui était assise sur la scène, hein, des deux côtés de la scène, les gens se levaient pour traverser la scène, les comédiens avaient un rôle très très particulier là-dedans, ils ne pouvaient pas toujours parler en fait, ni jouer. Donc ce livre montre très bien cette organisation de groupes au sein des théâtres, notamment des sous-groupes dans le parterre, la cabale, la claque, et puis il se finit sur un travail sur le débat autour du parterre assis ou du parterre debout, qui est assez magnifique. On voit par exemple Voltaire qui avait du mal à faire respecter ses pièces par le parterre, voulait qu'on assoie le parterre, alors que Diderot a défendu une position inverse en disant que le parterre reste debout parce que c'était l'émotion, la tempête, le théâtre, etc., que ça devait rester un jugement émotionnel par rapport à un jugement qui serait plus rationnel de personnes qui seraient assises. Ça se finira par un parterre assis, puisque vous le savez, aujourd'hui, on ne va pas au théâtre, on reste debout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage qui permet de comprendre une espèce d'occultation organisée des manifestations d'émotions au profit d'une esthétique beaucoup plus contemplative vis-à-vis des œuvres qui définit la relation que sont censés avoir aujourd'hui les spectateurs de théâtre. De ne pas faire de bruit, de ne pas tousser. Merci. De ne pas bouger, d'applaudir à un certain moment et pas à d'autres, de ne pas siffler et de ne pas partir, etc. Pour d'autres, il y a des rituels qui sont totalement différents de ceux qui existaient il y a 3 siècles. Et ce travail que j'ai commencé sur le théâtre est un travail donc, qui va vraiment avoir une entrée très très précise, assez différente des travaux qui ont été faits sur le Festival d'Avignon ou sur le Musée de la Comédie Française. Ça va être un travail uniquement sur avec qui on va au théâtre, avec qui on en parle, et qu'est-ce qui se passe de ce qu'on comprend de l'entourage quand on est dans une salle de théâtre. Et je suis tombée par, c'est un début d'enquête, là je suis tombée sur quelque chose dont j'ignorais l'existence avant, qui s'appelle des groupes d'amis ou groupes relais selon les théâtres, c'est-à-dire en fait de la sociabilité organisée par un individu qui recrute dans son entourage direct entre 10 et 50 personnes, il en fait 10, il en fait pas plus que 50, avec qui il va programmer une sociabilité et des sorties au théâtre sur toute une saison théâtrale. Je travaille actuellement sur le fichier du théâtre de Chaillot, qui a 800 groupes d'amis, c'est-à-dire l'importance de cette forme d'organisation sociale du théâtre. Et j'ai bien de faire 25 entretiens de responsables de groupe. A priori, c'est très riche, je pense, c'est-à-dire que ça montre effectivement qu'il y a un enjeu fort actuellement à ce que la haute culture soit reprise dans des dimensions sociales. C'est presque revendiqué à la fois par ceux qui organisent ces groupes, mais aussi par ceux qui participent à ces groupes, donc les membres, qui finalement vont presque me décrire. Bon, l'expérience théâtrale, elle a l'air assez complexe, c'est beaucoup décrit sur le modèle du risque, du pari, de l'aventure, on ne sait jamais comment ça sera, etc. De l'ennui, le fait de dormir, je comate, tout ce risque du théâtre qu'on n'entendrait pas à propos de la télévision, bien sûr. Mais du coup, le fait d'y aller ensemble est une manière d'avoir un contrepoids, une sorte de compensation par la sociabilité qui va permettre d'affronter l'aventure du théâtre. Et donc, ils vont avoir tout un discours sur la première partie de la soirée, c'est-à-dire la pièce. Elle sera comme elle sera, on ne peut jamais savoir avant. Mais la seconde partie, c'est-à-dire le moment où on va prendre un café ou dîner ensemble après, c'est toujours réussi parce qu'on se retrouve en famille. Donc ça repose, à mon avis, des questions intéressantes sur, par exemple, aussi l'hypothèse que fait Di Maggio sur le fait que la haute culture est associée à des relations d'humains forts. Et c'est effectivement le cas en tant que ces groupes, c'est-à-dire que ça fonctionne un peu comme les réseaux relationnels sur Internet. Il y a un noyau dur de gens qui se connaissent très bien Et puis s'agrègent à ce noyau dur des grappes d'amis d'amis, hein, comme sur Facebook ou sur le site relationnel. Et finalement, le leader va aussi avoir pour rôle de rendre de plus en plus cohérent socialement le groupe, c'est-à-dire de renforcer l'effet lien fort dans le groupe pour que l'expérience théâtrale soit vraiment partagée au sein du groupe. Il y a aussi des choses très intéressantes sur le phénomène de placement, c'est-à-dire comment ces leaders, pour renforcer les liens forts, ils reçoivent toutes les places d'un seul coup, dans un cas, 5 fois 30 places par exemple, et ils vont faire des tableaux sous Excel pour dire « machin, il était à côté de machine la dernière fois, donc je vais faire connaître comme une maîtresse de maison finalement, ce sont des femmes très souvent, qui va faire un plan de table, là c'est un plan de salle, et ils le disent d'ailleurs comme ça, je fais mon plan de salle, donc ce couple-là ne s'entend pas avec ceux-là, mais je le mettrai là parce qu'il faut un bain qui se fait aussi. » Donc un travail sur la sociabilité, et en même temps un travail sur le théâtre, c'est-à-dire un travail où la gratification principale du responsable de groupe, visiblement, c'est le fait de choisir les pièces et de créer une culture théâtrale dans le groupe dont il s'occupe, c'est-à-dire d'avoir un effet d'initiation. Et de ce point de vue, c'est pas très loin des supporters d'un club de football, hein, sauf qu'il n'y a pas le délire et la violence qu'il y a autour, mais c'est cette idée d'être pratiquement dans une position quasi professionnelle vis-à-vis du théâtre. Donc je vais avoir tous ces discours sur mes abonnés, ma programmation. Certains vont boycotter certains théâtres, on ne les reconnaît pas comme personne. Hein, il y a une forte demande de personnalisation des rapports avec les services qui s'occupent des relations publiques. Donc on voit se mettre en place cette marche parallèle d'une organisation culturelle, hein, programmer X sorties d'un théâtre, et d'une organisation sociale, renforcer les liens dans un groupe, assurer la cohérence sociale d'un groupe, avec l'idée que c'est parce que les deux vont pouvoir se rejoindre, c'est-à-dire parce que le groupe va aider à faire le passage culturel, passage difficile au théâtre, hein, puisque le ticket d'entrée est plus élevé, notamment sur les créations théâtrales, on ne sait absolument pas comment ça va être avant, ça va être très très ennuyeux, donc il y a une espèce de l'idée de venir en renfort, hein, à plusieurs, de se donner du courage pour y aller. Et puis après, si l'expérience est réussie, je vais m'arrêter là, si l'expérience est réussie, elle est décrite comme sur le modèle de la communion, hein, le calendrier religieux est très très présent, donc sur des expériences d'une intensité émotionnelle extraordinairement forte, c'est rare, mais ça arrive, et quand ça arrive, c'est la récompense de tout ce parcours en fait. Dans le cas parcours, il y a eu plein de pièces qui ont été dramatiquement ennuyeuses, si je puis les taxer ainsi. Voilà, donc je suis désolée, c'est un petit peu confus sur le théâtre, mais je suis un matériau que je n'ai pas fini de traiter, qui part dans beaucoup de directions, donc il faudra que je vois comment je peux maintenir un fil constant sur l'articulation entre la sociabilité et la pratique culturelle dans ce cas précis. Voilà.